Demain, il y a donc une course très réputée à Ville-d'Avray et un certain nombre d'entre vous y participeront. Et donc, nous avons eu cette idée de créer une sorte de tradition, de consacrer la messe de la veille, le samedi soir, aux sportifs. Il se fait que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sport, parce que d'abord j'en ai beaucoup pratiqué, et puis j'ai même enseigné une philosophie du sport. C'est un cours que je donnais, que je donne toujours, à l'Institut catholique de Paris. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire ce cours, ce serait un peu long. Mais comme c'est long, je peux, j'ai au moins 15 années devant moi. Voilà, à raison d'un petit saupoudrage tous les ans. Aujourd'hui, je voudrais juste vous donner une idée de la naissance du sport, comment le sport que nous connaissons aujourd'hui est né. Le sport n'est pas né en Grèce. Voilà, première erreur que tout le monde allait immédiatement professer. Le sport n'est pas né en Grèce, les Olympiades n'étaient pas du sport. Les Olympiades, avaient comme but de faire se rencontrer les cités grecques, qui d'habitude se faisaient la guerre, pour une rivalité organisée, un concours d'excellence codé, et on espérait ainsi qu'il y aurait une sorte de catharsis, c'est-à-dire on décharge l'agressivité, et donc probablement on ne se fera plus la guerre. Des gens qui se rencontrent sont peu enclins à immédiatement se quereller, quel que soit le type de rencontre qu'on ait. D'ailleurs, il y a une intuition quand même tout à fait géniale dans les Olympiades grecques, c'est que c'était un culte. Le sport est lié à la religion. Ça, c'est très intéressant. Mais à la religion bachique, dionysiaque, c'est-à-dire, j'explique, c'est-à-dire, c'est la religion de l'ivresse. C'est la religion de la mêlée des pulsions. C'est une sorte de glorification de cette espèce de force pulsionnelle qui est capable de détruire l'homme et de le remplir de plaisir. Dionysos. C'est ça le sport olympique. On ne vous a pas dit ça, évidemment. Parce qu'il est d'abord d'essence religieuse et une religion terrible. Une religion de la violence. Une religion où on jouit de la violence. Avouez donc que faire du sport, c'est plutôt mieux. Mais si vous regardez bien, si vous réfléchissez bien, les sportifs parmi vous, vous vous rendez compte qu'en effet, les Grecs n'avaient pas tort. Dans le sport, il y a quelque chose de la violence. Et dans le sport, on peut même dire qu'il y a quelque chose du plaisir de la violence. Mais ce n'est pas de ça que dont je voulais vous parler. J'en parlerai une autre fois, si vous voulez. Je voudrais vous parler du sport tel qu'on l'entend aujourd'hui. Comment est-il né? Qui a eu l'idée géniale de faire naître cette activité qui, quand même, aujourd'hui, occupe les écoles, les collèges, les lycées, les universités, et même après, on continue à faire du sport, il y a un engouement pour les sports publics. Bon, qui a eu cette idée géniale? Il y a trois sources. Figurez-vous que pendant des siècles et des siècles, on n'a pas fait de sport. Le sport est né au 19e siècle. C'est très récent. Mais j'entends le sport tel qu'on l'entend aujourd'hui. Parce que les érudits parmi vous vont dire « Ah, mais il y avait les tournois au Moyen-Âge ». Oui, mais bien sûr, il y avait les tournois. Mais ça regardait quoi? 10 personnes sur 10 000. Regardez combien le sport touche aujourd'hui de monde. Oui, c'est véritablement un phénomène social. C'est la raison pour laquelle il faut s'y intéresser. Le sport est né au 19e siècle, il y a trois sources. La première, vous la connaissez, c'est Coubertin. La seconde, c'est l'hébertisme. La troisième, ce sont les abbés sociaux, des prêtres qui s'occupaient d'œuvres sociales. À mon avis, le sport vient d'eux. Un peu d'Hébert, très peu de Coubertin. J'explique. Ils sont tous contemporains. En gros, Pierre de Coubertin a créé les premières nouvelles Olympiades en 1894. Monsieur Hébert a créé l'hébertisme en 1900, juste avant la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde. Et les abbés sociaux, ils étaient très, très efficaces avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale. Ils sont tous contemporains. Quelle est l'idée ? Et c'est là où, quand même, la foi chrétienne a quelque chose à dire. Coubertin, c'est très intéressant. Coubertin vit dans une espèce de mythologie grecque, c'est-à-dire le monde qu'il dit être la Grèce n'a rien à voir avec la Grèce. C'est une Grèce inventée. En gros, il dit les Olympiades, c'est pour faire la paix. Erreur, le sport chez les Grecs, c'est pour faire la guerre. Il se trompe complètement. Le sport chez les Grecs, c'est pour faire la guerre. On s'entraîne uniquement dans des sports guerriers. Il suffit de regarder quelles étaient les compétitions. Donc, ce n'est pas fait pour faire la paix. Par contre, là où il a raison, c'est que les Olympiades, c'est la rivalité de l'excellence. Mais l'excellence, ce n'est pas le sport. On vous fait croire, quand vous mettez vos gamins dans un club de sport, on vous fait croire que faire les compétitions, c'est l'idéal du sport. Je dis que non. Je dis que ça, c'est la perversion du sport. Les compétitions, les championnats à tout prix, ce n'est pas la vérité du sport. La vérité du sport vient d'ailleurs. Cette espèce de rivalité, de gagner des médailles, de faire des concours, de gagner des breloques, d'être le meilleur, ça n'est pas le sport. Pareil pour les conservatoires de musique. Les conservatoires de musique qui ne veulent que l'excellence ne font pas aimer la musique. Regardez le nombre de gosses qui s'en vont fâcher avec la musique. Pareil pour le sport. Deuxième grande intuition, l'hébertisme. C'est quoi l'hébertisme ? En fait, vous savez tous, Monsieur Hébert, les parcours Hébert. Voilà. L'hébertisme, alors c'est un mec génial. C'est un officier, à l'origine, français. Et on lui demande, juste avant la guerre de 14-18, il est officier, et après la guerre de 14-18, on s'est rendu compte qu'on s'était pris une sacrée volée. Pourquoi ? Parce que les garçons étaient chétifs, malades. Sanitairement, ils étaient complètement défaits. Vous voyez, corporellement, il y avait quelque chose qui n'était pas sain. L'armée a pris la chose en main. Parce qu'on s'est dit, il nous faut des soldats, des vrais, des mecs, autrement dit, pour parler clairement. C'est-à-dire des gens correctement bâtis, qui n'aient pas de problème sanitaire, qui n'aient pas de problème de scoliose, qui aient des bras qui ne sont pas des bras d'allumettes, qui soient capables de marcher 20 km sans s'effondrer et sans vomir, etc. La guerre 14-18 a été un révélateur stupéfiant. Hébert dit, très bien, je vais entraîner les soldats, mais... Voilà l'intuition géniale. Si vous voulez que les soldats fassent du sport et donc qu'ils aient un corps sain, il faut qu'ils le fassent pour le plaisir. Idée géniale. Le plaisir est né. Le plaisir du sport est né. C'est complètement génial. Et ce qui est assez curieux, vous voyez, c'est de se rendre, que vous vous rendiez compte que ça a une histoire, qu'on longtemps on a fait du sport sans plaisir. On faisait de la gymnastique, 1, 2, 1, 2, gauche, droite, on s'emmerdait. C'était pas du sport, c'était de l'entraînement physique. On dressait les hommes comme on fabrique des machines. Hébert a dit, non, si vous voulez vraiment des gens en forme, des gens qui ont une bonne santé, des gens qui feront de bons soldats, il faut introduire le plaisir dans l'exercice corporel. C'est une idée géniale. Alors, après, il a quitté l'armée et il a créé l'hébertisme. Bon, je vous en parlerai une autre fois aussi. Donc, plaisir du corps, vous voyez, très grande innovation. C'est tout à fait nouveau, tout à fait nouveau. Troisième intuition, pour moi, c'est la plus géniale, bien sûr. Et c'est évidemment la raison pour laquelle j'en parle dans une église. Ce sont les abbés sociaux. Qu'est-ce que c'est, les abbés sociaux ? Ce sont des prêtres qui, généralement, étaient vicaires. Ils n'étaient pas curés. Les curés, au XIXe siècle, prêchaient des choses assez ennuyeuses, c'était très moralisateur. Et ils avaient des vicaires. À l'époque, il y avait un curé et plusieurs vicaires, c'était bien. Et les vicaires s'occupaient d'actions sociales. C'est à l'époque où on a ouvert les dispensaires de quartier. Vous vous souvenez, Enfin, peut-être que vous le savez, les plus anciens parmi vous se souviennent encore, on les appelait les sœurs piqueuses. Parce qu'elle faisait les piqûres gratuites. C'était extraordinaire. C'est l'époque où on a créé les jardins ouvriers. Qui a créé les jardins ouvriers ? Un prêtre. C'est l'époque où on a créé les patronages. Qui a créé le patronage ? Des prêtres de Paris, des prêtres de Lyon, des prêtres de Bordeaux. C'est l'époque où on a créé le scoutisme. Qui a créé le scoutisme ? Ah, c'est pas un prêtre, c'est un officier. Baden-Powell. Mais aussitôt, ça a été pris par le père Doncoeur et le père Sevin, qui ont fait mais exploser le scoutisme. Et le scoutisme repose sur quoi ? Sur la joie du jeu. Le jeu, les corps jouent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pédagogie sur le corps, on prend les activités corporelles, le plaisir corporel, le jeu, comme pédagogue. C'est le corps qui va devenir le pédagogue. Alors voilà quelque chose de très important et que je développerai une autre fois aussi. Vous voyez le nombre de sujets qui émergent et dont il faut reparler. C'est l'époque des patronages, etc. Voilà ce que c'est que l'œuvre des abbés sociaux. Et quelle est l'intuition géniale de ces prêtres ? Eh bien, il y en a quatre. Il y a d'abord le jeu, je viens d'en parler. Souvenez-vous, Hébert avait parlé du plaisir. Et eux, ils disent, certes, il y a le plaisir. Notez bien, ils disent, certes, il y a le plaisir. Voilà. Contrairement à ce que toutes les âneries que vous entendrez à propos de l'Église, qui n'aime pas le plaisir corporel, etc. Enfin, des âneries d'idéologues. Donc, ils disent le jeu. Il faut d'abord faire jouer les gens. Et pourquoi le jeu plus que le plaisir ? Parce que le jeu est social. Notez bien ce détail. Le jeu est social, le plaisir peut être parfaitement égoïste. On peut faire du sport pour faire le beau. On peut faire du sport pour soi seul, pour être en santé, pour le bien-être, dit-on, pour le paraître. Mais eux, ils disent, ça ne suffit pas. Le jeu, il est social. Et donc, le plaisir du jeu. Deuxièmement, mais j'ai déjà évoqué, la glorification du corps. Et là, vous voyez, on peut carrément utiliser cette expression « glorification du corps ». C'est-à-dire, c'est le corps qui devient l'acteur et c'est le corps qui va devenir l'éducateur. Et comment ça marche, ça ? Ben, regardez ceux qui vont courir demain. En quoi votre corps est-il votre éducateur ? Ben, certes, vous l'avez habitué, vous l'avez entraîné, mais c'est votre corps qui va mener la danse demain. Et c'est lui qui va vous dire « là, tu peux y aller encore, là, tu peux pousser, là, arrête-toi ». Tu n'iras pas plus loin. Et le corps devient une sorte de pédagogue qui vous apprend la tempérance, qui vous apprend la mesure, qui vous apprend le don de vous-même, qui vous apprend l'effort, qui vous apprend la retenue, le nombre de vertus qu'il y a dans l'exercice corporel, le nombre de vertus qu'il y a dans l'amitié corporelle, l'amitié avec son corps. Ensuite, il y a le plaisir corporel, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé avec M. Hébert, le scoutisme va énormément l'utiliser, les patronages vont énormément l'utiliser. Et puis il y a ensuite, quatrième point, mais ça il faudra que je fasse également là, un long développement précis, le sport met en place un grand nombre de vertus. C'est des vertus comme la force, comme la prudence, comme la discipline, comme le courage, etc. Et autant de vertus qui sont vertueuses, c'est-à-dire qu'elles fabriquent en nous l'humanité. Elles consolident en nous l'humanité. Et donc c'est ainsi que le sport va devenir un véritable facteur culturel, mais un facteur éducatif. Et moi, ça me plaît beaucoup de rappeler que l'Église a été l'acteur numéro un dans cette promotion du sport. Pas M. de Coubertin. M. de Coubertin, regardez à quoi ça aboutit. Ça aboutit à des millions d'euros juste pour l'excellence. Ah, juste pour la rivalité de l'excellence. Alors évidemment, ça n'est pas sans conséquences heureuses. C'est que quand des gamins, par exemple, voient un très beau acte sportif, ils ont envie de faire du sport. Donc pourquoi pas ? Mais quand même. Il y a vraiment des problèmes de décence par rapport à l'argent. Le sport, lui, il ne demande rien. Le footing de demain, il va vous coûter que dalle. Il va nous coûter à nous parce qu'on va vous offrir des produits dopants en sortant. mais à vous, ça ne coûte rien. Et donc, vous voyez, le sport ouvre aussi à une nouvelle vertu dont il faudra également reparler, la frugalité. Mais j'en reparlerai. Et donc, je voudrais finir, vous voyez, par en laissant parler Saint Paul. Ah, vous allez me dire, Saint Paul, il déteste le corps, c'est bien connu. Bah oui, on dit ce genre de bêtises à longueur de temps, mais non, pas du tout. Par contre, il dit, le corps a un vrai problème, c'est qu'il a tendance à se replier sur lui, alors qu'il faut qu'il s'ouvre sur les autres. Voilà. Et il conclut son chapitre 6 de la première lettre aux Corinthiens par cette phrase magnifique, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Et voyez, Coubertin avait quand même une bonne idée. Bon, je critique pas mal, moi, monsieur de Coubertin. Hein. Mais il y a une chose quand même, que j'ai pas dite exprès, la beauté. Coubertin avait compris qu'un geste sportif convenablement fait, suffisamment entraîné, un geste sportif qui frise l'excellence, c'est beau. Un beau perchiste, un patineur, un coureur, quelqu'un qui monte à cheval, c'est beau. Et ça, vous voyez, il a touché là quelque chose que saint Paul avait compris. Glorifiez Dieu dans votre corps. Et le corps peut faire de véritables louanges. La louange du plaisir, la louange de l'excellence et du beau geste. Sans oublier, évidemment, tous les aspects dont je reparlerai maintes et maintes fois, que sont les vertus que met en place, qu'honore, que fait grandir le corps sportif.